Salut tout le monde, ici Estelle au micro. Je suis ravie de retrouver le studio de Salut l'Info.
Un podcast de France Info et du magazine Astrapine.
Ravie aussi de retrouver nos chers auditeurs et auditrices.
Bonjour, c'est Maya, j'ai 9 ans et c'est l'heure de Salut l'Info.
Dans cet épisode, des infos et de l'incroyable. Direction l'Amazonie pour de surprenantes découvertes archéologiques. On te fait vivre une finale dingue en ping-pong et on suit les traces d'un oiseau disparu ou presque.
Allez, c'est parti!
Ce que tu entends, ce sont des manifestations de joie après l'élection présidentielle au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. C'était le dimanche 24 mars. Parmi eux, cette manifestante interrogée par des journalistes de l'AFP.
Je vois que le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, mais c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire.
Bassirou Diomaye Faye, c'est le nom du vainqueur de cette élection. Il l'a remporté dès le premier tour. C'est une surprise et un gros changement. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye va devenir le plus jeune président du Sénégal. C'est un opposant de l'ancien président Macky Sall, qui était au pouvoir depuis 12 ans et très critiqué. Il faut dire que le Sénégal connaît beaucoup de pauvreté et de chômage. Près d'une personne sur cinq n'a pas de travail. Le pays a aussi connu des manifestations contre le pouvoir ces dernières années et une nouvelle crise politique en février. Prévue le 25 février, l'élection présidentielle a été reportée, provoquant l'incompréhension et la colère chez beaucoup de citoyens. Lors de manifestations, de nombreuses personnes ont été arrêtées et certaines sont mortes dans des violences. Opposé au pouvoir en place, le futur président Bassirou Diomaye Faye avait lui-même été arrêté l'an dernier. Il a été libéré de prison une dizaine de jours avant les élections. Sa victoire doit maintenant être validée par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a promis en particulier d'améliorer le fonctionnement de l'État et de faire baisser le coût de la vie.
C'est quoi les news ?
On te parle de dodo.
Pourquoi parler quand on dort ?
Alors, pas de sommeil, mais je te parle du dodo, l'oiseau. Tu sais, c'est une espèce de grand pigeon originaire de l'île Maurice, dans l'océan Indien. Menacé et chassé par les humains, cet oiseau a totalement disparu au XVIIe siècle. Et pourtant...
Il est réapparu ?
En quelque sorte. À l'occasion des 30 ans de la Grande Galerie de l'Évolution, deux dodos ont été reconstitués au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, où ils sont exposés au public. Alors bien sûr, ils ne sont pas vivants, mais ils ressemblent à de vrais dodos.
Bah oui, moi je trouve que c'est un intérêt pour en apprendre plus aux autres.
Oui, et ça c'est le travail des taxidermistes. Alors, ce ne sont pas des conducteurs de taxi, mais des professionnels qui conservent des animaux morts avec des techniques spéciales pour les montrer tels qu'ils étaient vivants.
Bah, le point, c'était il y a longtemps.
Oui, pas facile de reconstituer fidèlement un animal totalement disparu. Alors, pour y arriver, le muséum s'est appuyé sur des peintures d'époque, des os retrouvés avec l'aide de scientifiques.
Et maintenant, on parle de quoi ?
D'un sport que tu connais peut-être. Petit indice, il se joue avec une raquette.
Le ping-pong, le tennis ?
Le ping-pong, ou aussi appelé tennis de table. Dimanche 24 mars, c'était la finale du championnat de France. Deux joueurs se sont affrontés, et pas n'importe lesquels. Deux frères, Félix et Alexis Lebrun, 17 et 20 ans.
Peut-être qu'ils ont tous les deux gagné ?
Oh là là, c'est magnifique. Regardez la joie d'Alexis qui, une fois de plus, s'impose sur son frère cadet dans un match officiel. Mais quel bonheur, quel bonheur.
C'est le grand frère, Alexis, qui a remporté le match. Et c'est la troisième fois qu'il est champion de France. Petite consolation, la veille, les deux frères ont remporté le championnat de France en jouant en équipe double. Les deux pongistes, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de ping-pong, sont de vrais prodiges de la petite balle ronde. Ils figurent parmi les 25 meilleurs joueurs du monde et on a grand espoir qu'ils remportent une médaille aux Jeux Olympiques cet été. Il faut dire que chez les Lebrun, le tennis de table, c'est une affaire de famille. Puisque leur père et leur oncle sont d'anciens joueurs de haut niveau.
Bravo !
Salut l'info, c'est l'info qu'il vous faut !
Le dossier de la semaine.
La forêt amazonienne est un territoire immense. Elle traverse les frontières de 9 pays, dont le Brésil, la Colombie ou encore l'Équateur. C'est dans ce dernier pays que des archéologues ont récemment fait une incroyable découverte. Lara, notre journaliste, a rencontré l'un d'eux.
Oui Estelle, il s'appelle Stéphane Rostin. Et on a commencé par discuter de vêtements. Parce que moi, quand je m'imagine un archéologue dans la jungle, j'ai vite en tête l'image d'un homme avec une veste en cuir, un chapeau de feutre et un lasso. Et je crois que je suis pas la seule. Mais dans la réalité, c'est un peu différent, nous explique Stéphane Rostin.
On n'est pas habillé comme il dit Alan Jones, parce qu'un chapeau de feutre en forêt, c'est insupportable, c'est beaucoup trop chaud. Alors j'ai des chapeaux tout le temps, mais qui sont des chapeaux de paille, à vrai dire. Parce qu'il fait très chaud en forêt, il peut faire jusqu'à 40 degrés, il pleut. Donc on est plutôt habillé simplement, avec des pantalons qui résistent aux épines et à toute la végétation. Une chemise légère et puis toujours évidemment un sac à dos avec de l'eau, des carnets, un peu de matériel pour fouiller.
Stéphane Rostin, son truc à lui, c'est l'Amazonie. Il est tellement fasciné par la plus grande forêt tropicale du monde que ça fait 40 ans qu'il y travaille. Ce qui l'intéresse précisément, c'est la vallée de la rivière Upano, en Équateur. C'est là qu'il a récemment découvert les traces d'une ancienne ville où vivaient des milliers d'habitants.
Alors les traces principalement ce sont des terrassements, c'est-à-dire ce sont des constructions, soit ce sont des tertres, des monticules, soit ce sont des canaux, des fossés qui ont été tracés par eux, ou même des routes creusées, des chemins creusés qui sillonnent dans tout le paysage.
Ces traces, il les a mises au jour grâce à une nouvelle technologie appelée LIDAR. C'est une sorte de radar qui survole la forêt et qui permet d'étudier ce qu'il y a sous la végétation. Ensuite, en allant sur place, il a pu comprendre qui étaient les habitants de ces anciennes villes.
Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans la construction des monticules et des routes creusées, des géomètres, des terrassiers, des gens qui creusaient. Et pour nourrir ces gens, il fallait des paysans qui cultivaient, qui leur donnaient de la nourriture, mais aussi des prêtres ou des chamans, comme on les appelle là-bas, qui organisaient des cérémonies collectives. Il y avait très probablement des chefs, des rois. Et puis il y avait des marchands qui allaient dans les autres régions pour échanger des produits.
Il faut donc imaginer que c'est là, au milieu de cette forêt tropicale, qu'il y a 3000 ans vivaient plusieurs milliers d'habitants. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'à cette époque, Paris ou Londres n'étaient que des villages en comparaison. En plus, les habitants de la forêt n'avaient pas les mêmes moyens qu'en Europe pour construire des bâtiments.
En Amazonie, on n'avait pas beaucoup de pierres. Donc ce ne sont pas des villes de pierre en Amazonie, ce sont des villes de terre. Ils ont été des terrassiers, ils ont creusé et surélevé la terre pour construire des plateformes sur lesquelles ils pouvaient édifier leurs maisons. Ils ont creusé des routes, ils ont sculpté la terre, on peut le dire.
Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, de grandes civilisations ont donc vécu dans la forêt amazonienne. Stéphane Rostin va continuer à étudier ces sites pour mieux comprendre le mode de vie des habitants. De nouvelles découvertes seront certainement faites dans les mois qui viennent. De quoi lui faire vivre encore quelques émotions.
Il y a toujours une petite piqûre d'excitation quand on découvre quelque chose. C'est peut-être le côté enfant de l'archéologue. Finalement, un archéologue reste toujours un enfant. En tout cas, ce sont des excitations très piquantes, comme quelqu'un qui va découvrir un trésor. Sauf que le trésor, c'est pas de la richesse, c'est juste des informations sur l'histoire d'une région. Et donc, toute découverte archéologique est toujours excitante.
D'ailleurs, la passion de Stéphane Rostin pour l'archéologie, elle a commencé à peu près à votre âge, chers auditeurs, chères auditrices.
C'était une volonté depuis que j'étais tout petit. Si loin que je me souvienne, je devais avoir 7-8 ans quand la vocation est venue, probablement en lisant des livres, que ce soit Tintin ou d'autres livres pour enfants, et j'ai décidé, vers cet âge-là, de devenir archéologue, et j'ai tout fait depuis pour le devenir.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Salut l'Info, et merci à notre journaliste Lara.
Non, mais vraiment, j'ose pas le dire.
J'ai pas envie d'en parler. Mais si, vas-y, on se dit tout.
Voisins de classe, voisins de palier, ce n'est pas toujours facile de s'entendre avec celles et ceux qui vivent tout près de nous. Une auditrice fait appel à nous.
Bonjour, Salut l'Info. Je m'appelle Rose, j'ai 9 ans et je vais vous confier mon gros souci. J'ai une voisine, elle a 2 ans de moins que moi et tous les jours, elle arrive à me faire pleurer. Elle me parle mal et dit que c'est moi qui parle mal. Et j'en ai marre. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Alors ça, ce n'est vraiment pas très agréable. Tu dois ressentir beaucoup d'injustice quand ça arrive, ma chère Rose. Et c'est peut-être ça qui te fait pleurer d'ailleurs. Ta petite voisine a peut-être compris que ce sujet était sensible chez toi, et elle en joue probablement. Alors, pour ne plus te faire avoir, voici quelques idées de stratégies à mettre en place. Le meilleur moyen de déstabiliser quelqu'un qui te provoque, c'est de lui montrer que ses mots ne t'atteignent pas, que tu sais mettre de la distance. Alors pour ça, imagine que tu as autour de toi une armure de chevalier. Quand ta voisine te parle mal, pense que ses mots sont comme des cailloux qui te rebondissent dessus sans te toucher. Quand elle a fini, tu peux décider de l'ignorer royalement, faire comme si tu n'avais jamais rien entendu et aller jouer avec d'autres enfants. Tu peux aussi réfléchir à de petites phrases à te dire dans ta tête pour t'aider dans ces moments-là. Moi, ma préférée, c'est « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ».
Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues.
Laissez votre message après le...
Allez les petits clowns, en piste pour écouter vos meilleures blagues de la semaine.
Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 11 ans et j'habite à Chambéry. J'adore ce que vous faites. Je vais vous raconter une blague. Pourquoi Harry Potter chuchote-t-il ?
Je ne sais pas.
Parce que Dumbledore.
Je la connaissais pas celle-là et je valide.
Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 6 ans, j'habite à Plancher-Bas en Franche-Comté. Et voici ma blague. Quel bruit fait la sonnette quand c'est un gorille qui sonne à la porte ? King Kong.
Trop bien cette blague.
Bonjour, Salut l'Info. Je m'appelle Beryl, j'ai 7 ans et j'habite à Athènes en Grèce. Et je veux vous dire une blague. Quels sont les deux animaux les plus intelligents du monde ?
Je ne sais pas.
Le cerf et le veau. Cerveau.
Bravo !
Vous n'êtes pas archéologue, mais vous vous êtes bien creusé la tête pour trouver ces super blagues. Merci beaucoup. Toi aussi, fais-nous réfléchir et rigoler sur notre répondeur. Au 01 47 79 40 00.
Hé, hey, attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini.
On ouvre les portes du club Salut l'Info pour accueillir Maya cette semaine. Dis-nous, où est-ce que tu habites ?
À l'Alvade d'Ardèche, c'est un petit village et du coup c'est au bord de l'Ardèche et on peut s'y baigner l'été. Il y a des montagnes et il n'y a pas autant de magasins qu'en ville.
On est les Ardéchois, la 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 la, cœur fidèle et tout tralala, la 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 la, et on chante notre région comme notre chant de l'écho.
Quel est ton film ou ton dessin animé préféré ?
Bienvenue chez les Louds. Bah parce que ça parle de famille et ça peut ça parle de famille du coup et ça peut aider d'autres gens.
Bienvenue chez les Louds.
Bouscule, bouscule, nous freine. Nous c'est comme ça qu'on s'aime.
Bienvenue chez les Louds.
Un gars d'ici.
Mais j'adore ma grande famille.
Qu'est-ce que tu préfères faire à l'école ?
La poésie, parce que j'adore faire l'illustration.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages.
Et Maya, qu'est-ce qui te fait peur ?
Les serpents. Bah, en Ardèche, oui, il y en a dans les rivières et aussi sous les rochers. Du coup, j'ai un peu peur.
Oh là là, moi aussi, ça me fait peur, ça. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée ?
L'odeur de la lavande.
Ah oui, ça sent le sud. Allez, une dernière question pour la route. Quelle est ta chanson préférée ?
Mythomane de Aldebert. Bah, parce que je trouve qu'elle est très rigolote et que il fait un peu dire qu'il faut pas trop dire de mensonges parce que parfois on peut croire n'importe quoi.
Et ben moi, mon père, il est cosmonaute et l'année dernière, Thomas Pesquet, il a fait Noël chez nous.
Avant, on vivait à New York, mais bon, c'était trop surfait, on a déménagé du coup.
Tu sais, la Terre, elle est pas plate, hein. En fait, c'est un genre de gros cube, mais faut pas le dire.
Ah, mais voilà une chanson d'actualité. Tu sais, à Salut l'Info, chaque semaine, on fait la chasse aux fausses infos. Alors on ne peut qu'adorer. Merci Maya.
Au revoir tout le monde, passez une très bonne semaine.
À la semaine prochaine, pour faire le plein d'infos sans mytho. Ciao, ciao.
Merci Estelle.
À la semaine prochaine.
Allongé comme Pinocchio, alors tu relirais Romain Tokyo. Yeah, yeah.